Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici l'interview du jour sur RDWA, cette émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM sur 107.5. Aujourd'hui, nous recevons Olivier de Cebipus. Bonjour.
Bonjour.
Tu viens ici parler des agités du local, un lieu où tu vas proposer le vendredi 27 novembre à 20h une soirée qui sera dédiée au miel et qui aura pour titre « Goûter le paysage avec le miel ».
Exactement.
En tout premier lieu, tu voulais nous parler, suite à ce qui s'est passé ces derniers jours, de ces événements qui ont eu lieu à Paris. Voilà, ouais. Et donc je te laisse la parole.
Ben oui, avec cette tragédie qui s'est passée vendredi dernier à Paris. Donc moi, entre le moment où je parle et le moment où ça sera diffusé, il y a une petite différence de quelques jours. Et sauf s'il y a eu encore d'autres tragédies, je pense que ce que j'ai à exprimer sera toujours dans le contexte. En tout cas, vis-à-vis de la réaction des politiques et de notre président absolument belliqueuse. Moi, je voudrais exprimer une réaction beaucoup plus sensible et dans laquelle je trouve important de pouvoir déclarer, exprimer sa profonde tristesse, le fait d'être profondément déstabilisé par cette situation. Et de le dire, et dire aussi peut-être son impuissance. Le fait de le dire n'est pas une forme de faiblesse, mais au contraire, j'ai l'impression que vis-à-vis de tout un discours actuellement extrêmement de la résistance, qu'il faut résister, on se pose peut-être pas la question à quoi devons-nous résister. Et actuellement, la situation ou la posture d'impuissance telle que je pourrais l'exprimer pose aussi la question, c'est à quoi devons-nous résister, voilà. Et plutôt laisser passer au moins quelques jours encore, exprimer notre profonde tristesse, ce qui pourrait être quelque chose comme moi je suis médusé. Voilà, vraiment médusé par ce qui s'est passé, permettrait de se réapproprier aussi une telle tragédie. Tragédie, c'est un mot beaucoup plus fort que drame, et événement, moi, ça ne me satisfait pas du tout, parce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, et qu'ils ont été, ça a été clairement des assassins qui ont froidement agi et de façon extrêmement lâche. Mais ces gens ne sont pas hors de nous. Moi, j'ai l'impression que ce sont des Français qui sont nés en France, qui ont grandi en France. Ce qui me surprend énormément, c'est de la façon dont le gouvernement est prêt à étaler des milliards dans une guerre dont on se demande bien contre qui elle va être menée, où. Et que ces milliards-là, s'ils étaient dépensés à d'autres choses que dans des armes, mais peut-être à des ascenseurs qui marchent, peut-être à des doubles vitrages qui protègent contre le froid dans des habitations désolées, mais peut-être à des infrastructures sportives, culturelles, mais peut-être aussi à des êtres humains qui sont peut-être des éducateurs. Peut-être si ces milliards-là, on en faisait autre chose qu'à l'utilisation des armes, je pense que ça serait une lutte tout aussi efficace contre cette misère et cette misère morale vraiment dans laquelle un certain nombre de gens dans notre pays sont plongés. Voilà. Et mon inquiétude que je voudrais faire partager, elle est aussi à cet endroit. Elle n'est pas uniquement au fait que des gens puissent froidement venir abattre des innocents, mais aussi face à cette réaction belliqueuse dont je ne vois aucune issue. Et si il y avait des milliards à dépenser, peut-être qu'à un autre endroit qu'à celui de la destruction, il serait peut-être plus profitable à nous tous. Voilà. Mais maintenant que j'ai exprimé ça, je voudrais faire le lien justement au travail que je fournis, puisque c'est un travail artistique. Et que ce soit la tuerie de Charlie Hebdo, que ce soit celle à Paris, au Bataclan, ce sont les artistes qui sont touchés. Voilà. Et je me sens comme dans un surcroît de nécessité à faire ce que l'on fait chaque jour. Nous, les artistes, on est nombreux, on est extrêmement nombreux, mais peut-être pas assez encore. Et le travail que je fournis et que je vais présenter ce vendredi 27 novembre, ici à Die, dans cette petite ville, et ce que j'exprime à ce micro, dans cette radio de cette petite ville, on ne doit pas le minimiser, ni penser que ce que l'on fait ici à Die n'a pas de conséquences ou n'est pas en lien avec tout ce qui peut se passer dans des villes un peu plus grandes, etc. Voilà. Donc, vendredi soir, aux agités du local, le 27 novembre, à partir de 20h, comme tu viens de le dire, je vais présenter le travail que je fournis depuis 3 ans et que je viens régulièrement ici à la radio, et je vous remercie de m'accueillir à chaque fois pour toutes les étapes de travail que je fais. Et là, c'est une nouvelle étape que je suis en train d'ouvrir qui s'appelle, que j'appelle donc le paysage mellifère, et l'invitation que je fais, tout un chacun peut venir évidemment, c'est de venir goûter le paysage par le miel. Donc je fais un lien direct entre ce que les abeilles élaborent, c'est-à-dire le miel, et le paysage qu'il y a aux alentours. Et l'enjeu de ce travail, de ce projet-là, il y en a plusieurs. Il y a un enjeu où on sait qu'il y a une disparition des abeilles, et il se trouve que l'abeille est un animal tout à fait particulier. Je crois que peut-être c'est le seul abeille dans tout le règne animal qui a cette particularité, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de la substance qu'elle crée. Je veux dire par là que l'abeille n'a qu'une seule nourriture, c'est le miel, et qu'il n'y a personne d'autre qu'elle-même qui fait du miel. C'est-à-dire que l'abeille ne peut pas être substituée par une autre espèce animale qu'elle-même pour créer sa nourriture. C'est quand même assez particulier comme situation. Et pour qu'elle puisse élaborer ce miel, il faut des fleurs. Donc, s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de nectar. Et s'il n'y a pas de nectar, il n'y a pas d'abeilles. Voilà. Et l'enjeu dans lequel on se trouve, et je suis content d'avoir reçu... Enfin, c'est une actualité, d'autant plus c'est une actualité qui est travaillée à un autre endroit. C'est-à-dire que j'ai reçu le mensuel Abeilles de France, dans lequel il y a un article très intéressant où il était évalué l'activité pollinisatrice des abeilles et de ses conséquences. Et on s'aperçoit qu'il y a 2/3 des productions agricoles qui dépendent de la pollinisation des abeilles, ce qui est énorme.
Excuse-moi de t'interrompre, tu peux me préciser les types de cultures qui ont besoin d'abeilles, par exemple ?
Ah ben, elles sont extrêmement nombreuses. Eh ben, il y a l'arboriculture fruitière, par exemple. Il y a les grandes cultures oléagineuses, comme le colza, par exemple. Il y a les cultures maraîchères, les cucurbitacées. Il y a tous les petits fruits, tels que les fraises. Il y a les cultures porte-graines et particulièrement les semences hybrides. Et il a été constaté, et dans la Drôme, alors je lis là l'article hein, parce que voilà, il est sous mes yeux, qu'il y a eu une étude en 2007 dans la Drôme où il y a une production de semences hybrides de tournesol qui montre qu'il y a un écart de 10 points dans le taux des germinations des graines issues de fleurs en pollinisation libre par les insectes comparé à celui des graines issues de fleurs qui n'ont pas bénéficié de leur visite. Cet écart est considérable pour les agriculteurs dont les revenus dépendent de la faculté germinative. Voilà. Donc, il a été évalué à 153 milliards d'euros l'apport, le travail fait par les abeilles sur la production agricole, ce qui est incroyable de mettre un chiffre au regard d'une activité, on va dire, naturelle. Mais enfin, 153 milliards, et ce qu'il y a d'étonnant dans ce chiffre...
Je t'interromps là-dessus. Comment se fait-il que les apiculteurs soient vraiment au bas de l'échelle, puisqu'ils arrivent à peine à s'en sortir financièrement?
Ah bah alors là, ça c'est... Mais juste, excuse-moi, Yves, je voudrais terminer l'article. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ces 153 milliards de bénéfices que nous font économiser les abeilles, finalement, hein, puisque c'est de l'argent qu'on ne dépense pas, ce chiffre est supérieur au montant des ventes et des produits phytosanitaires. Donc, ce qu'il y a de tout à fait... l'enjeu, mais vraiment l'enjeu qu'il y a dans cette histoire-là, c'est que comment faire pour s'émanciper et s'affranchir des produits phytosanitaires que l'on nous a mis dans les pattes. Je veux dire, quand c'est nous, ce n'est pas uniquement les agriculteurs dont on comprend qu'ils sont maintenant dépendants et dont il est très difficile pour eux de s'en défaire. Et mon travail à moi n'est pas de faire la morale ou de dire « y a qu'à ne plus mettre de produits phytosanitaires et tout ira bien pour vous ». Non. La question, c'est comment recréer une situation qui va faire qu'on va trouver le chemin, alors qu'on a trouvé le chemin pour mettre des produits phytosanitaires, comment trouver le chemin pour arriver à ne plus utiliser ces produits phytosanitaires. Et finalement, l'utilisation des produits phytosanitaires implique des investissements extrêmement importants, dont l'activité des abeilles pourrait en faire l'économie.
Et il existe certainement une corporation des apiculteurs en France, non ?
Il y en a énormément.
Beaucoup, très divisé peut-être alors ?
Extrêmement divisé, évidemment.
Voilà, parce que je me disais, pourquoi ne pas valoriser l'abeille, tout simplement ?
Mais c'est ce que font... Alors, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que tout apiculteur est contre les produits phytosanitaires. Mais là où on rentre dans une situation un peu plus compliquée, c'est que finalement... En lisant toutes ces revues d'apiculture que je reçois chaque mois, je m'aperçois qu'un certain nombre de sociétés d'apiculture donnent un certain nombre de crédits à ces produits phytosanitaires en acceptant de faire des études épidémiologiques sur l'impact de ces produits phytosanitaires sur les abeilles. Or, pour moi, je trouve complètement aberrant de faire une étude épidémiologique sur l'impact de ces produits phytosanitaires, puisqu'ils sont faits pour tuer les insectes. C'est même leur raison d'être. On fait des produits phytosanitaires pour tuer, ce sont des insecticides. Donc ils sont là pour tuer les insectes. Et on va faire des études donc, épidémiologiques, scientifiques, pour évaluer cet impact. Ce qui est complètement stupide. C'est-à-dire que les industriels qui élaborent ces produits... Pour moi, ils gagnent énormément de temps réunir autour de la table et des apiculteurs qui en sont victimes de ces produits phytosanitaires et des scientifiques pour élaborer l'impact et de l'argent public pour trouver des financements. Voilà. Et pendant qu'il y a ces études pour élaborer et pour trouver quel est l'impact de ces produits phytosanitaires, le massacre continue. Voilà. Et ça, c'est personnellement, je pense qu'il faut s'émanciper de cette situation-là, dans le sens où des études telles qu'a fourni la journaliste qui a fait le livre et le film Le Monde selon Monsanto, on s'aperçoit qu'il n'est pas possible de donner un crédit à ces firmes-là, puisque ces firmes-là ont pénétré toutes les instances gouvernementales qui donnent les autorisations sur le marché de ces produits-là. Donc, c'est Monsanto, pour ne parler que d'elle, mais BASF en Europe, pour l'Allemagne, etc. Ce sont des firmes qui ont pénétré les instances décisionnaires, politiques, je veux dire scientifiques, pour mettre ces produits sur le marché. Et là où je fais un lien sur notre triste situation du week-end dernier, c'est que ces firmes, ce sont des firmes chimiques qui élaborent aussi des produits de guerre. et que les produits chimiques que l'on épande dans les champs, ce sont des produits de guerre, comme l'agent orange qui a été produit par Monsanto dans les années 50, utilisé pendant la guerre du Vietnam, puis après réutilisé dans les produits phytosanitaires. Donc on voit bien là qu'il y a un enjeu et une certaine cohérence dans lequel on est et dans lequel on n'arrive pas à se sortir pour l'instant. On est vraiment pris, voilà. Donc très modestement, personnellement, je tente... Pas moi personnellement, parce que je veux dire, on est extrêmement nombreux et moi je m'abreuve énormément de tous les travaux qu'il y a à ce sujet-là. Mais je pense faire une espèce de synthèse entre de nombreux travaux et de nombreuses expériences qu'il y a actuellement, c'est-à-dire de faire une proposition et de faire un lien entre l'abeille et le paysage. C'est-à-dire que, pour revenir un peu à ma démonstration de début, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'abeilles sans fleurs, il n'y a pas de fleurs sans abeilles. Pour qu'il y ait finalement une bonne germination et une bonne pollinisation des plantes et des plantes cultivées, il faut qu'il y ait absolument des abeilles. Et donc, il faut qu'il y ait une présence paysagère d'un certain nombre de plantes, plutôt que, voilà, il faut qu'il y ait une présence paysagère de certaines plantes et de plantes mellifères, voilà. Donc l'idée de ce paysage mellifère, ce serait de proposer qu'il y ait présent des plantes mellifères en continu et en quantité et en qualité suffisante pour que les abeilles puissent se nourrir, on va dire, de février jusqu'à fin septembre. Voilà. Alors j'ai dit beaucoup de choses et j'ai pris beaucoup de détournement pour en arriver à cette chose relativement simple, qui est que la proposition que je fais, c'est qu'un paysage mellifère était un paysage composé de plantes mellifères en quantité et en qualité de fin février et à mi-septembre. Et que la présence de ces plantes va apporter une présence esthétique particulière que leur absence que nous prive.
Pour ça, tu auras invité pour cette soirée plusieurs apiculteurs.
Voilà, alors l'idée, c'est que l'apiculture que je pratiquerai serait une apiculture paysagère. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le miel que font les abeilles, qu'élaborent les abeilles, et le paysage qui est alentour. Et donc, comme je pratique une apiculture fixe, les abeilles butinent des millions et des millions de fleurs et des espèces différentes. C'est-à-dire que le miel qui est élaboré et que les abeilles élaborent et que moi je récolte, c'est un miel, on va dire, toute fleur. Mais le miel toute fleur, ce qui est bizarre, c'est qu'il est toujours dans le... c'est celui qui est le moins, on va dire, qui a la connotation la moins élevée dans la préférence sur l'étalage de l'apiculteur. Alors que ça serait, d'un point de vue nourricier, peut-être celui qui a le plus de propriétés différentes de fleurs et qui pourrait être chargé de plus de propriétés nutritives qu'un miel monofloral, même s'il est très bon, le miel de lavande ou le miel de... Voilà. Donc l'idée, ce n'est pas de mettre en concurrence le miel de lavande avec le miel toute fleur. L'idée, c'est de donner une valeur, une qualité différente au miel toute fleur que celle que l'on donne actuellement. Et donc j'invite plusieurs apiculteurs amateurs à apporter leur miel de leur ruche fixe de plusieurs endroits du Diwa pour qu'on puisse justement apprécier d'un point de vue gustatif les différences d'arômes, de parfums, de la même manière que qu'on pourrait le faire avec le vin. Et ça, la dégustation de vin, c'est une dégustation qui est souvent conduite par un œnologue. C'est assez confortable, justement, pour qu'il puisse ouvrir le champ de l'imaginaire, qui associe des arômes, etc., à des fruits, etc. Et que cela ouvre, je trouve, le champ de l'imaginaire. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, qu'il y ait un œnologue qui vienne. Je suis en contact à l'heure actuelle avec un œnologue. Je ne sais pas s'il viendra, alors j'espère qu'il viendra et qu'on pourra le confirmer. Et qui puisse justement ouvrir le champ de l'imaginaire au moment où l'on goûte les miels et que l'on porte moins d'attention à savoir quel genre de plante il y a à l'intérieur, mais de savoir quel genre d'arôme et quel imaginaire il nous ouvre le miel.
Et visuellement, alors, ça se présentera comment ?
Bah, visuellement, ça se présentera de façon très simple. Il y aura d'abord, dans un premier temps, on va dire un échange et peut-être une présentation de ma part de ce que c'est donc le paysage mellifère, où j'essaierai de conduire les personnes qui seront là dans cette idée de paysage mellifère. Voilà, ça sera, on va dire, une visite du paysage mellifère. Essayer d'expliquer de quoi il est fait ce paysage mellifère dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, eh ben, il y aura juste certainement des tables ou une table avec des petits bâtonnets en bois que l'on pourra prendre et avec lequel on dégustera chacun les miels différents, et il y aura quelque chose qui conduira à la dégustation, j'imagine, mais voilà.
Tu n'utiliseras pas, comme je l'avais vu pour le goût du paysage, une carte qui puisse décrire
oui,
un peu le paysage.
Oui, alors après, évidemment qu'il y a le rapport géographique au paysage, enfin le rapport cartographique, puisque la carte est là pour nous, est une modélisation en quelque sorte du territoire et du paysage. Alors oui, il y aura certainement la présence de cartes. Puisque les miels que je prétends apporter et que j'invite, ce sont des miels, on va dire, territorialisés, qui sont en rapport vraiment. Donc ce serait intéressant de goûter un miel vers Châtillon, là-bas, et voir justement quel goût il aura par rapport à un miel du Perrier. Et moi, j'ai des ruches qui sont côté Aube et un autre qui sont côté Perrier, et ils n'ont pas du tout le même goût. Et ça, c'est très intéressant aussi de faire ce constat-là, même si les abeilles sont dans des zones relativement proches.
Qu'est-ce qui t'attire sur les cartes ? Parce que j'ai remarqué quand même quelques travaux où les cartes sont un outil d'expression pour toi.
Alors oui, j'imagine que tu as dû recevoir le mail que j'ai envoyé ce matin, puisque je fais une exposition aussi dans le Vercors. C'est mon travail sur les montagnes et le paysage de haute montagne. Qu'est-ce qui est attirant dans les cartes ? En fait, je crois que quand adolescent, j'ai fait de la montagne, beaucoup. La carte, c'est d'abord un outil. Un outil, si on est dans la montagne et qu'il y a des nuages, il faut avoir une boussole et une carte pour pouvoir se diriger. Donc c'est un outil. Et c'est un outil, des fois même, de survie. Et donc, on y apporte une grande importance. Et en y apportant une grande importance, après, quand on voyage, la première chose que l'on fait quand on voyage, en général, on achète une carte. Ça m'est même arrivé de me dire d'acheter des cartes de pays dont je n'avais aucune espèce de... Enfin voilà, que je ne connaissais pas et qui m'attirait. Alors, j'ai acheté une carte du Burundi, par exemple. Je me disais, tiens, c'est où le Burundi ? Je ne sais absolument pas où est le Burundi. Je suis allé dans un magasin où il y avait des milliers de cartes et j'ai acheté une carte du Burundi. Et voilà, j'ai voyagé dans le Burundi à travers la carte. Du Népal aussi. J'ai acheté une carte, je ne suis jamais allé au Népal. Je ne sais pas si j'irai un jour, mais enfin bon, voilà. Et je trouve que c'est des lieux. En fait, ce sont des ouvertures à l'imaginaire, j'ai l'impression, avec la carte. Le travail que j'ai fourni sur le paysage de montagne et que je fournis là, cartographique, la carte serait le support, justement, à ouvrir l'imaginaire que l'on a du territoire. Et peut-être aussi, la chose assez étonnante aujourd'hui dans laquelle on se trouve, et c'est un peu un paradoxe de notre époque, c'est que autant la carte, pendant un moment, ça a été aussi un support d'exploration, et qu'il y avait des terra incognita et des cartes avec des taches blanches. J'en ai des cartes comme ça anciennes qui sont magnifiques. Alors que là, aujourd'hui, tout est absolument cartographié. Il n'y a pas un centimètre sur la Terre qui ne soit pas cartographié. Et finalement, la carte, je retourne la carte à la chose dont elle nous a assigné, c'est-à-dire elle nous a assigné à Terre. Nous sommes vraiment des terrestres, voilà. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc la carte, je retourne cet outil ou presque à la... Je retourne la chose à laquelle nous a assigné, c'est-à-dire à la Terre. Et je la retourne pour en faire un objet de l'imaginaire. Voilà. Et ce sont souvent des cartes qui peuvent ouvrir à l'imaginaire. Et donc, l'imaginaire aussi, le paysage, et ça, c'est un des éléments auxquels je tiens et que je vais développer dans cette soirée, c'est que le paysage est d'abord et avant tout à une dimension imaginaire. Et c'est peut-être même, je ferai même peut-être cette proposition, que c'est notre médium actuellement de notre société européenne occidentale qui nous permet de nous mettre en rapport sympathique et sensible avec notre environnement physique.
Et par rapport à ce mail que je n'ai pas vu encore, en fait, ce matin, donc désolé, je me disais, est-ce que tu es en train de créer une nouvelle représentation cartographique par le miel et les abeilles?
Alors, ça serait chouette, ça serait bien, ouais. Peut-être, alors là, on va atteindre un autre, des choses sur lesquelles je suis en train de travailler aujourd'hui, donc c'est un petit peu prématuré, mais peu importe. Je travaille à un auteur que peut-être certains auditeurs connaissent, qui s'appelle Bruno Latour, qui est quelqu'un qui est très en vogue, on va dire, actuellement, et qui a écrit un livre que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai entendu à la radio, ce gars, et qui s'appelle « Face à Gaïa ». Et donc, c'est un chercheur anthropologue qui, justement, fait une critique extrêmement prolifique sur la question de la modernité, sur le fait dont on perçoit la nature et la culture de façon très séparée. Et en fait, aujourd'hui, quand on est dans ce rapport nature-culture, où d'un côté il y a la nature et de l'autre côté il y a la culture, et dans lequel il n'y aurait rien qui pourrait... il y a des frontières étanches entre les deux. Finalement, le travail que je suis en train de... La voie vers laquelle je suis en train de travailler, c'est un peu lui qui m'ouvre un peu des portes et des pistes là, où il fait une proposition que finalement, si on dépasse cette question de nature et culture, on est plutôt face à des puissances que chaque être, que chacun de nous sont des puissances, et que ces puissances, elles partagent leur qualité. Voilà. Et de la façon dont on partage nos qualités, nous coopérons tous à ce devenir monde dans lequel on est. Voilà. Et que finalement, le partage de nos propriétés, de nos puissances avec les abeilles, et que les abeilles sont aussi des puissances avec lesquelles on partage un certain nombre de propriétés, fait que le miel peut être éventuellement un objet à partir duquel on peut, on va dire, élaborer toute une forme de relation qui jusque-là, on n'arrivait pas à percevoir parce que il y avait d'un côté les abeilles du côté de la nature qui font un produit naturel, mais il se trouve que les actions que l'on a sont des actions sur la nature et qu'en retour, ce que fait la nature, elle agit sur nous. Donc on n'est pas dans des rapports, de distance, mais on est vraiment dans des rapports justement où on est très emmêlés les uns dans les autres. Des pensées qui sont en train de s'élaborer aujourd'hui et qui sont extrêmement, pour moi, que je trouve extrêmement fécondes, un petit peu expérimentales. Et ça, c'est très bien. Je trouve ça chouette de vivre dans l'époque dans laquelle on est et de ne surtout pas s'adonner à cette tristesse dans laquelle pas des fous furieux, parce qu'ils ne sont pas fous, justement, mais à des personnes qui abattent froidement et qui assassinent froidement des gens. Comme ça s'est passé la semaine dernière, personnellement, je ne veux pas me résoudre à leur tristesse. Et qu'aujourd'hui, on vit une époque dans laquelle il y a des enjeux extrêmement importants et qu'on a tous les outils. Vraiment, on a tous les outils et des outils heureux, joyeux, de création pour pouvoir s'en emparer et pour pouvoir faire quelque chose de bien, ouais, vraiment.
Eh bien, Olivier, merci d'être venu. Voilà. Et donc, je rappelle aux auditeurs, cette soirée du 27 novembre aux Agités du local dès 20h et qui aura comme thème « Goûter le paysage avec le miel ». Olivier.
Eh bien, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose pour visiter?
Un site dont le nom est tout simple, qui s'appelle legoutdupaysage.com, legoutdupaysage.com. Il y a tout le résumé de tout le projet depuis 3 ans.
Eh bien, Olivier.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1. Terre.
Hey, the bird.